elle n'est pas qu'une compositrice chinoise en un temps X. Et son langage musical, certes, semble de prime abord plus compréhensible par d'autres que sa langue, le chinois. Et pourtant, je n'en suis pas si sûre. Et quand on travaille ensemble à une image, je pense à l'image du nuage dans Caspar de Pierre. J'ai travaillé 2 ans et demi avec la compositrice à métaphoriser ensemble. J'appelle ça couver un œuf ensemble. On a couvé les métaphores ensemble. Et elle a extrait les voyelles du texte pour entourer les termes de nuage. Et je pense que la personne qui entend ça se représente le nuage, mais dans le texte aussi, peut-être dans la diction aussi. Donc les oppositions ne sont pas terme à terme entre quelque chose qui serait universel et quelque chose qui serait singulier, qui aurait des frontières. Ça, je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a des frontières à la musique, des frontières culturelles, politiques et temporelles, et qu'il y a des circulations. Donc, travailler avec un compositeur ne me fait pas dépasser le problème de la limitation, en pose un autre. Certes, c'est une altérité, mais qu'on peut oublier aussi. Voilà.
Vincent, je te cède la modération.
Oui, alors nous sommes dans cette table ronde sur les nouvelles architectures, je crois, et on ne sait pas si on fait de nouvelles architectures nous-mêmes, on ne sait pas forcément ce que cela pourrait signifier, mais il nous a semblé que ce qui traversait nos travaux, c'est peut-être la question, entre autres choses, d'un flirt avec des discours qui autrefois n'étaient absolument pas des discours de l'ordre de la poésie. Un flirt, par exemple, avec le discours théorique. En tous les cas, nous ne rejetons pas, il me semble, nous ne rejetons pas le travail dans le discours de la théorie. Enfin, chacun d'entre nous a fait une thèse, chacun d'entre nous enseigne ici ou là à l'université, et on l'entendait dans ton texte, par exemple, le texte que tu as lu au tout départ, c'est à la fois, comment dire, une façon de ramener peut-être un discours théorique et en même temps de le questionner depuis l'intérieur. Il me semblait que ce qui se passait en ce moment d'un peu nouveau ou ce qui se repassait de nouveau actuellement dans les arts et dans les littératures contemporaines, c'est précisément la façon dont des artistes et des auteurs ramènent les discours disons théorique, pour pas employer un autre mot, que ce soit des discours anthropologiques, que ce soit des discours sociologiques. Très récemment, une poète, Caroline Bergwall, une poète et artiste, Caroline Bergwall, la semaine dernière, j'étais à un festival en Angleterre, et elle travaille autour de la conférence des oiseaux de Attard, et des oiseaux qui disparaissent, et des langues qui disparaissent, ou des langues minorisées. Et alors, elle avait ramené, dans le cadre de sa performance, elle avait ramené 6 personnes, un anthropologue, un ornithologue, une poète iranienne, etc., etc., un spécialiste d'écriture médiévale, pour faire une conversation avec eux et ponctuer cela de travaux poétiques qu'elle était en train de lire. Il y a eu un article dans le Guardian, et ensuite je vais poser ma question, il y a eu un article dans le Guardian, et la personne qui faisait cet article disait « Ah oui, c'est très très bien, c'était super, toutes ces conversations, etc., toutes ces modalités de la conversation, but is it art ?» Mais est-ce que c'est de l'art ? Alors, où est, si on utilise les discours théoriques, à partir de quel moment, enfin, pourquoi est-ce qu'on les utilise dans notre travail ? À partir de quel moment est-ce que ce flirt, est-ce qu'il devient dangereux ? Est-ce qu'il peut être dangereux ? Et à partir de quel moment il fait partie de l'écriture ? C'est la question large que je vous pose.
Je crois que c'est vrai que la lecture de la théorie était très importante, elle est demeurée pour moi. Mais je pars du principe que la théorie n'a pas besoin, même si ça va choquer de le formuler comme ça, de la théorie forte, créatrice, n'a pas directement, immédiatement besoin de la poésie. Autrement dit, si on va faire le flirt dont tu parles, et j'aime bien cette expression, si on va être promiscuous, si on va développer une promiscuité avec la théorie, il va falloir aller la chercher, la théorie. Il va falloir aller la gagner, la convaincre. Et donc, ne pas partir du principe qu'il faudrait, avec des Legos, monter un château qui ne pourrait pas exister sans ces Legos-là. La théorie existe, d'autres choses existent. Peut-être que le poétique, c'est autre chose. Peut-être que le poétique, c'est justement ce qui est interstitiel et qui passe à travers les choses. On pourra peut-être en reparler, mais la théorie, même si son histoire remonte, en effet, depuis Platon à un discours un peu comme ça négatif, dialectiquement avec la poésie, elle existe en tant que telle. Autrement dit, lorsque, pour un poète ou pour un artiste, il va s'agir d'aller la chercher. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faudra inventer de nouvelles modalités. et pas la prendre et la copier, comment est-ce qu'on dit, copier-coller. Il ne s'agit pas de la prendre et de la mettre dans un autre endroit, au milieu d'un poème, ou au milieu d'une lecture, ou sur une scène. Ce ne sera pas suffisant. Il va falloir aller chercher dans les registres, dans les modalités, dans toutes les boîtes à outils dont dans la théorie, la théorie, que ce soit la théorie physique ou la philosophie, se sert pour dire en quoi ce que, si je la modifie, elle va pouvoir m'aider, non pas à répondre à mes questions, mais à les poser de manière plus précise. Et c'est ça ce qui m'intéresse, que ce soit dans le travail de Caroline ou dans d'autres, qui soit non pas aller faire une espèce de beau papier peint ou du tourisme, un peu comme ça, mais d'aller chercher ça. Et là, ce sera compliqué, parce qu'il y a à l'intérieur de la théorie toutes sortes de choses qui vont résister à ça. Et donc, on va aller refaire de la théorie en montrant comment est-ce qu'elle peut servir à quelque chose de poétique. Et je crois que là, ça peut être très, très utile parce qu'elles peuvent partager ces deux choses, la poésie et la théorie. C'est une ambition anthropologique, une ambition épistémologique, une ambition de savoir. Il n'est pas du tout certain que la poésie ne s'occupe pas de savoir ou de la connaissance. Au contraire, elle s'en occupe éminemment. Elle s'en occupe à sa façon. C'est comme s'il y avait la face nord, la face sud, la face est, ouest et encore beaucoup d'autres faces d'ascension d'un même sujet, c'est-à-dire comment vivre une vie qui ait un sens et qui soit vivable. Si la théorie a des moyens qui vont me servir, je ne vais pas me gêner, je vais aller les chercher. Mais en même temps, il m'incombera d'aller mettre en place une surface sur laquelle cet emprunt aura un sens concret.
Moi, je pense que si on parle de flirt, alors je ne suis pas sûr que la relation soit idyllique ou même platonique, voire je suis presque sûr qu'elle est conflictuelle. Je repense au poème de Tsara Welsenbeck, L'amiral cherche une maison à louer, où on a justement une collusion de différentes langues. Et en bas, il y a un gros trait et une grosse note de bas de page qui s'appelle Note pour les bourgeois, où là, il y a de la théorie. Et quand on regarde la présence de la théorie dans les livres de poésie depuis une vingtaine d'années, moi j'ai deux exemples qui viennent en tête. C'est un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michaud, où effectivement, il y a des incursions théoriques qui viennent comme des respirations au sein d'un poème qui veut montrer justement la force d'asphyxie de la langue journalistique à travers cette abécédaire. Donc il y a un rapport d'antagonisme entre la présence de la théorie et l'espace poétique. Et puis je pense au dernier livre en date d'Alain Frontier, Érudition, où là justement la note de bas de page vient envahir dans une négociation. Et là où je pense qu'il y a effectivement conflit, c'est que, donc je vais utiliser mon joker, j'ai essayé moi de faire des poèmes à l'allure théorique et de les soumettre à des endroits de publication qui sont dévolus à la théorie, que sont les revues universitaires, et j'ai eu beaucoup de mal à faire publier un texte qui s'appelle La solution n'est pas le sujet dans une revue éditée par l'éditeur Peter Lang de l'université de Zurich, mais c'est quand même passé, et donc en fait ça a une facture théorique mais une motivation poétique puisque l'objet est sans cesse dévié. Et à force de vouloir marquer des étapes, que ce soit pour rendre sensible la progression ou ménager son propos, le fait qu'à se sentir obligé de raconter ce qui se passe à chaque fois, il peut arriver que l'on crée une illusion de continuité dans tout ce qu'on a pu entreprendre et dire, ce qui peut entraîner un effet de surconcentration qui est souvent la cause d'un déficit relationnel, puisque c'est typiquement le genre de situation dans laquelle on peut oublier ce qu'est le rôle des amis. Mais entre le rôle des amis, le travail d'une vie, l'air énigmatique, tout ça, l'accumulation de données produit assez généralement une acceptation anticipée de leur caractère, pourtant très couramment plat. On devait pouvoir faire le relevé de l'aplatissement des consciences des plus gros consommateurs de données, même si on ne dit pas forcément superposable avec un mécanisme de défense.
Oui, ce que tu disais, ce que vous disiez, c'est effectivement tout à fait ça. Le conflit, il s'opère dans des deux côtés. C'est-à-dire que je pense notamment au travail de Pascal Poyet, qui en ce moment travaille beaucoup autour de Wittgenstein, et on a pu lui reprocher. À mon avis, c'est se méprendre véritablement sur la nature de ce travail, mais on a pu lui reprocher cela et lui dire non, ça c'est de la philosophie, ça n'est pas de la poésie. Et donc il y a très souvent, enfin. Ce qui m'intéresse aussi encore, comme pour la traduction, c'est la limite parfois assez ténue entre la poésie et la philosophie, et comment, par exemple, la philosophie dans le cadre des discours théoriques, et comment ces discours parfois peuvent se rejoindre, mais en même temps ont quand même des valences et surtout sont des tentatives très différentes.
Oui, moi je le vis aussi dans le temps. Alors je suis très proche de l'image des deux versants. ou des versants de l'approche et dans le temps aussi. C'est-à-dire qu'il y a, si on devait, moi j'appelle ça le sens de substitution, c'est inaliénable. On ne pourrait pas me retirer mes 20 ans de lecture théorique, mes articles et mes livres de poésie, et je ne sais plus, donc dans la façon de l'amalgamer, ça fait sédiment, et c'est une matière un peu informe. Donc ce n'est pas l'acte de création forcément, mais effectivement c'est là. Donc c'est une fausse innocence, c'est déjà là. Donc je ne peux même pas, moi, souvent, savoir, certaines personnes me disent, hein, donc certaines fois j'ai même ce faux semblant de ne pas savoir d'où ça vient, mais c'est là. Après, il y a ce qui est conscient, mais tout ne peut pas ce qu'on peut. Alors moi, j'ai le rapport à la théorie ou à la recherche, qui est dans le temps un rapport préalable, d'une avant-œuvre, comme un graveur préparait, à la manière noire, prépare sa plaque. C'est ce que je peux tenter de prévoir. Quand je travaille sur la lamentation, je lis 2 ans sur la lamentation, j'organise la page, je conçois Bellard comme quelqu'un qui est dans une lamentation, et je conçois un autre personnage qui va dans le champ des champs, qui va de droite à gauche, tout ça d'après Méchonique. Bon, tout ça, je peux tenter de le prévoir. Quand je travaille sur Caspar de Pierre, je peux le concevoir comme un autre Voitsek, en me disant pourquoi est-il irreprésentable, et savoir que je vais un moment parler de la violence, de la représentation de la violence, en m'observant de Saint-Sébastien, de la complaisance de la violence de l'époque bourgeoise depuis le 19e siècle, quasiment une jouissance à voir le nombre de flèches et voir le flanc nu de Saint-Sébastien. Ça, effectivement, c'est des lectures, c'est des cahiers, c'est une recherche qui n'est pas très loin de la recherche scientifique. En revanche, en tout cas dans moi, je ne prétends pas que ça dépasse ma personne, il y a un contre-mouvement, comme un contre-rythme, qui est comme si je préparais une table et qu'ensuite, dans un moment d'écriture, je jette la nappe, ou je tombe sur la table, ou que je crève mon propre toit, ou dans un moment où le magasin de porcelaine et je suis l'éléphant, je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose de ensuite qui procède d'un oubli. Enfin, moi, je dis que je travaille contre la culture à un moment, c'est-à-dire à la fois adossé à elle et contre elle, peut-être sans le vouloir. Donc, il y a les deux moments qui ne s'excluent pas, qui sont des pôles différents, comme une titubation d'un rythme et d'un contre-rythme. Donc il y a un moment d'oubli et où ce danger d'envahissement, moi je le sens quand même comme un danger, où je pose les cahiers et où, je disais, je construis un fauve, puisque je travaille sur l'exposition et toutes les violences faites à la langue. Il y a un moment, je suis quand même dans la violence faite à la langue, je construis le cirque, peut-être un peu trop bien, et ensuite, je ne sais pas si je lâche le fauve ou lâche quelqu'un de très fragile, un histrion sans armes, ça j'en sais rien, mais dans cette exposition-là, je ne prévois plus, et ça ne fonctionne. Je prévois pas le fonctionnement. Donc il y a un moment plus, un autre moment qui arrive.
Jérôme te répond et tu reprends la modération, d'accord.
Oui, non, si tu veux.
Simplement ajouter que la question que tu posais, c'est qui me plaît dedans, c'est la notion du rapport, le rapport entre la poésie et la théorie. Et le rapport, c'est le contraire de l'indistinction. Oui. C'est pas parce que deux choses ont un rapport, c'est même pas parce qu'elles s'aiment, qu'elles ont envie l'une de l'autre, qu'elles sont les mêmes. Et presque l'inverse. Autrement dit, le rapport n'étant pas d'indistinction, qu'est-ce qui est spécifique aux deux? Et je crois que la théorie, je vais prendre celle que je connais entre guillemets le moins mal, on va dire la théorie, c'est-à-dire la philosophie, elle fonctionne avec des concepts. Et les concepts, c'est pas un truc qu'on trouve comme ça sous un... C'est pas par hasard et c'est pas n'importe quoi, c'est relativement précis. Par contre, la poésie, et pour le faire vite, la poésie moderne, à tout sens qu'on veut donner à ça, elle, depuis très longtemps déjà, elle s'indétermine. Elle n'est pas indistincte. Non. Sa distinction, c'est de s'indéterminer. Et donc, le rapport qu'il pourrait y avoir entre la poésie et la philosophie est très intéressant, parce que la philosophie va fonctionner avec des concepts, et la poésie, elle, sait être interstitielle. Elle sait, c'est son propre, dans le contexte moderne et contemporain, être dans plusieurs endroits différents et à la fois. Et là, le rapport risque d'être très excitant, parce que quelque chose va résister de manière très abrupte, quasiment hiéroglyphique, va insister avec des concepts. Il faudra aller les chercher et les comprendre et être sur leur terrain. Mais aller les chercher avec cette chose qui s'appelle la poésie, cet état d'esprit ou de corps qui s'appelle la poésie, ça peut vouloir les mettre ou les recevoir dans toutes sortes d'endroits et de contextes. Le rapport risque d'être très intéressant.
Moi, je voulais justement pour ça dire quelque chose également. Par exemple, il y a énormément, on sait que la pensée de l'espace et le rhizome dans la musique, dans la poésie, combien Deleuze a eu de l'importance. Et en revanche, après, est-ce que les poètes aussi peuvent tendre, hein, faire signe vers la... Et quand ils inventent poétiquement ou en recherchant un concept, est-ce que celui-ci peut se retrouver par capillarité et aussi influencer... Bon, je sais que Badiou, il y a des gens qui ont réfléchi un petit peu là-dessus, mais est-ce que le mouvement est réciproque? On peut aussi se poser... La question de la réciprocité. Bien sûr, que le poète reprenne ou invente un concept, mais la philosophie intègre-t-elle une pensée qui habite le poème. Donc c'est un débat qui existe. Hein, j'ai pas le... Alors moi, j'ai deux questions en une. Je ne sais pas si vous voulez y répondre, si je les compacte. On parle d'architecture. L'architecture, il peut y avoir... Olga Neuwirth et Alfredo Jelinek parlent d'architecture liquide. Donc l'architecture n'est pas forcément solide. Néanmoins, je prends un autre terme. Ça me fait quand même penser à une architecture, à une chose posée. Moi, je pense au... Ça peut être le tissage, le tressage. On ne va pas se s'arc-bouter sur les termes. On peut garder celui d'architecture. Comment vous travaillez dans ces déplacements qui sont, par exemple, je connais vos différentes œuvres, donc après, je repasserai la parole. Moi, je suis un peu obsédée par le temps, vous l'aurez compris, mais dans la temporalité d'un livre, je sais, par exemple, ce n'est pas le moment où je distribue la parole, ça va revenir. Tu travailles plutôt en amont la performance, puis arrive un livre... Et j'allais dire, le livre est un état qui ne se dépasse pas forcément. C'est pas forcément pareil chez vous. Le livre peut devenir performance, peut produire plusieurs ou lectures ou films. Donc il peut s'écrire, se réécrire et trouver d'autres stades. Est-ce que sont dans ces déplacements de cadre, dans ces pas de côté, est-ce que vous les organisez, est-ce que vous les accompagnez, est-ce que vous les appelez de vos voeux, est-ce qu'ils arrivent, et que qu'est-ce que ce passage de l'un à l'autre, que fait-il, que provoque essayez-vous de le prévoir ou pas? Et c'est lié à la question pour moi récurrente de l'opposition qu'on fait aujourd'hui dans la poésie. Je pense à une interview entre Alain Weinstein et Bernard Noël sur la musique, où Bernard Noël, que j'apprécie par ailleurs, hein, dit que la musique le rend silencieux. Et dit que le peintre est plutôt, je caricature un petit peu, mais davantage un ami des peintres vers le langage pictural. On le sait, d'autres poètes qui au contraire se considèrent comme mélomanes. Est-ce qu'il y a vraiment, véritablement, est-ce qu'on doit opposer en tant que poète, non seulement les performeurs qui estimeraient moins le livre et les gens du livre, alors qu'il me semble que vos pratiques toutes n'excluent ni l'un ni l'autre. Simplement, je veux savoir comment vous le concevez. Et par ailleurs, doit-on forcément dire que tu fais des vidéos poèmes et que je travaille sur la musique alors que la musique est présente, le timbre est présent, le rythme est présent, de même pour toi. Est-ce qu'on doit opposer terme à terme justement le rapport du poète aux arts visuels, aux arts sonores par exemple? Alors je sais pas, Vincent, est-ce que tu veux...
Moi j'allais répondre avec mon joker sur ces questions d'architecture et de comment en fait d'un livre on passe à une performance ou comment les livres se réarchitecturent les uns les autres et se contaminent. Donc mon joker, ce sont des cartes que j'avais préparées pour une performance que j'ai faite à Toulouse dans le cadre du printemps-septembre et puis des extraits d'un essai-poème qui s'appelle Parade masculine. Alors je vous lis juste deux ou trois petites choses. Arranger, donc. Technique du récit par piste. A. Ranger par lettre initiale. B. Faire des gestes correspondants. C. Traduire ce que ça fait. On s'écarte. Dans My Way, Charles Bernstein dit « Les paragraphes sont davantage liés par un principe de continuité que par une quelconque discontinuité, mais la relation qui les unit permet de changer de piste tout en continuant à avancer. » Dans Ultra Proust, Nathalie Quintane dit « Nous avons à faire l'infaisable ». Dans Ultra Proust, Nathalie Quintane dit « La maîtrise proustienne est indissociable de la conscience constante que toute maîtrise est impossible. En littérature, parce que ce n'est pas l'affaire des maîtres qui ont des choses bien plus importantes à faire dans la vie que d'écrire. Envoyer des signaux faibles. La possibilité d'être ensemble sans assemblage. » Je vous montre ceci. Et je vais couper un peu. Alors, dans Parade masculine, ce sont des chiffres, des chiffres qui reviennent comme ça. Par exemple, numéro 23, un autre, un à poil plus à l'horizontale, une carte à jouer. 24. On raconte que Vladimir Nabokov, l'écrivain qui avait passé au moins trois frontières linguistiques, aurait eu pour certaines de ses conférences un jeu de 100 cartes, peut-être toujours les mêmes, battues et rebattues. Il avait tout un théâtre du recyclage, voire son émission à la télévision française. « Monsieur Nabokov, que faites-vous le soir ?»« Le soir, je mets ma robe de chambre, je prends mon cachet, etc. etc. » Pour son dernier livre inachevé, Pasolini agence des cartes, une cartographie jamais arrêtée, un récit qui semble vouloir avancer sans fin, mais qui ne constitue jamais un roman. Il nomme cela « Pétrole ». Genet envoyait ses notes à son éditeur qui les conservait et les transcrivait. L'auteur venait ensuite les mettre en ordre. Quand il ne les battait pas comme un paquet de cartes, c'était le devenir d'un captif amoureux. Cette cellule, John Cage l'invente pour son solo pour une machine à écrire. C'est une forme de partition sans en être totalement une. Le principe, frapper les notes sur les touches rondes de la machine à écrire et ainsi produire un bruit, un son, une musique de machine amoureuse tout en tapant un texte. Alors le texte est véritablement fait musique et on oublie un peu, mais pas totalement, le compositeur. De même, on pourrait se dire qu'on dispose des cartes au sol, des cartes sur le sol, sur la planche du bureau. On en sort une autre, on les place, on les déplace, cartographie, cartomancie. Toutes ces cartes imaginées, ces capsules de récit, toutes ces paroles fusées comme la langue de nos désirs, les personnages de chair se matérialisent dans les phrases bien physiques. Ils avancent doucement, parfois franchement. Ils exhibent leur corps. Ils sont des êtres vus, entendus, regardés, sondés, pris en défaut, par accord. Chaque fois qu'on est en présence d'une femme ou d'un homme, on s'adonne à eux, d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin.
Merci. C'était ton joker ?
C'était mon joker.
D'accord.
Je vais faire une moitié de joker, mais avant cela, répondre à ce qui était en jeu dans ce terme d'architecture. Quand j'entends architecture, je pense à d'abord topographie. Et topographie, c'est le sol, c'est la division du sol, c'est le partage du sol. Et ensuite, c'est construire quelque chose. Mais lorsqu'on construit un édifice, ça devient une question de circulation de corps, de circulation de force, d'espace dans un contexte qui est encore plus large que ça. Et ça, je trouve que c'est très, très intéressant de le rapporter à ce qui se passe aujourd'hui dans la poésie. Alors, pour revenir à la manière dont tu introduis la question, des tas de gens vont dire c'est pas clair, il faudrait que ça le soit. Je ne pense pas qu'on puisse les aider. Enfin, je veux dire, on peut leur proposer des façons de sortir de ce type de questions, mais s'ils ne peuvent pas en sortir, ça va être un peu délicat. D'où cette rapide lecture. Pas pour faire n'importe quoi, tout est dans tout, savoir tout faire, non. Plutôt passer à la limite des formats types, les existants, les œuvres. M'emparer de ce dont j'ai besoin en eux, ce qui me sert de leur structure, et puis déprendre, rebrancher localement. La question du format, de la perf, c'est la question de l'usage, en fait, la question pratique. C'est la question ex post aussi, ex ante. Travailler à poser ses pinceaux, sa caméra, le corps des gens, là. L'éclairage dans un format formé pour déboîter, après. Des petites provisions de format formé, il en faut pour pouvoir agencer. Une idée de la forme pour suinter, il en faut pour fuir comme un tuyau crevé, après. Et ce faisant, affirmer un mixte. Un mixte, le format de ce que l'on fait venant toujours après, comme ça, comme après-coup. L'après-coup du formant. Théorie. La lecture perf comme méta-rond-point branché à d'autres ronds-points tournant en giratoire localement. Machine à capter des effets non homogènes, à les reconnecter entre eux et former ainsi une figure abstraite, ultra-dense, très concrète à la fois, qui déstratifie tout à nouveau frais, le rendant directement perceptible dans sa virtualité et ses puissances. Méthode. Ça joue sur tous les tableaux, images fixes, mouvantes, scènes, écrans, bruit, corps, son, multipliés par texte et voix. On travaille avec, on rapporte et on pose. On fonctionne plus ou moins en mêlée. On voit où ça nous mène, ça peut marcher. Il se passe quelque chose de l'imprévu. X fois Y égale Z. Ou alors plus retort. Le mélange relance chacun dans son coin, ça s'est vu. X fois Y égale X prime, égale Y prime. L'essai était un crochet en fait, un voyage d'étude. Incursion, pilule d'altérité, ingestion, réaction égale altération. Retour d'expérience. On met en commun pour voir ce que l'on voit l'un en la machine. Comment il fonctionne, avec quoi il travaille. On se rapproche en gros plan. On passe ses robes, on enfile ses bottes. On s'implante et se cultive des verrues sur le visage, comme dit le jeune Arthur. Excité, on s'invente une pénicilline pour son compte sur ses bases. Nouveauté, format. Comme si, en fait, il s'agissait de s'inventer une façon de vivre, d'habiter cette époque, peut-être qu'on peut l'appeler comme ça, où, en effet, les choses se déstratifient. Ça ne veut pas dire que tout est dans tout. Ça veut dire qu'il nous incombe d'inventer une pratique, une éthique, d'habiter cet espace qui est défragmenté.
Quand j'ai David, plus de joker, je vais te répondre complètement, enfin, partiellement. En fait, ce que dit Jérôme me semble très optimiste. Alors, ça me donne du coup envie d'y croire. Et en même temps que j'y crois pas. Enfin, j'ai vraiment du mal. Ce qui me semble faire problème, c'est l'idéal que serait, et c'est un idéal dont je ressens qu'on n'a pas vraiment la place, l'idéal que serait d'avoir une méta-lisibilité sur tout ce qu'on fait et qui voudrait qu'au nom d'un édifice, une performance liée à un livre, liée à une autre pratique, arriverait à se tenir debout les uns les autres et donnerait à notre grande œuvre une espèce de méta-lisibilité par rapport à tout, aux toutes petites lisibilités qu'on met en place acte par acte. Et en fait, moi, c'est pour ça que je consigne mes travaux sous forme de database, en égalisant strictement, en déhiérarchisant volontairement chacune de mes productions, quel qu'en soit le registre. Et c'est aussi pour ça que je les mélange avec appétit, parce que pour moi, c'est leur égalité de valeur qui va permettre des frottements qui vont pouvoir être féconds et maintenir des choses en vie. Et par conséquent, voilà, plutôt que édifice, moi, je pense de plus en plus ma pratique en termes de tapisserie, en tressant musique, paroles entre eux, et puis en essayant d'abolir un horizon de réception ou une promesse de compréhension qui serait tenue entre tout ça parfaitement compréhensible.
Excuse-moi. Ce que tu dis sur le fait qu'il n'y aurait pas de position, de point de vue à partir duquel on pourrait tout homogénéiser, tout ça, c'est parfaitement vrai. Je crois que l'édifice dont je parlais, c'est un édifice qui, d'une certaine façon, est virtuel, c'est-à-dire très concret aussi dans la manière dont on le ressent. C'est « et » plutôt que « ou », c'est pas « ça » ou « ça ». C'est « et ». Et ça créera des espaces-temps à l'occasion desquels ces choses-là seront reçues, un livre, une performance, une exposition, un moment dans la rue, une prise de parole dans un endroit comme celui-ci. Et c'est ça qui fera que ça pourra avoir lieu. Et plutôt que d'avoir à l'esprit une grille de lecture générique qui consisterait à dire « qui êtes-vous ? Quels sont vos papiers d'identité ? Montrez-moi vos papiers d'identité. » Vous ne pouvez pas faire et théoricien, et architecte, et poète, et ci, et ça. Répondre à ce réflexe, si, on peut tout à fait. C'est à nous, c'est à vous, c'est-à-dire y compris au public, au lectorat, aux gens qui sont là, de participer à cette architecture. Quand je disais l'architecture tout à l'heure, l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle n'est pas fixe. Elle n'est pas fixe une fois pour toutes. Vous n'êtes pas les visitants d'un musée qui existera en tant que tel. Vous êtes co-architecte. C'est aussi à vous de faire.
Et c'est vrai que dans ce sens-là, on pourrait aussi penser... enfin, moi, en tout cas, je pense mes textes et la façon dont ils s'écrivent et puis mes interventions, etc., comme, en fait, les relations qui existent entre les moines du Mont Athos, c'est-à-dire ce que Barthes appelait l'idiorythmie, c'est-à-dire le fait que tous ces moines vivent à la fois dans une communauté et, en fait, c'est une communauté sans communauté. Donc les rapports... Il y a des rapports réglés, mais en même temps, ces rapports sont déréglés. Donc ça, c'est une notion qui me fascine entièrement et je trouve que si mes textes répondent à quelque chose, peut-être, éventuellement, c'est peut-être à ça.
Jérôme, tu prends la modération pour les 5 dernières minutes.
Cette notion simplement de cette notion de collaboration. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous êtes en train de collaborer ? Comment vous êtes venu à collaborer avec des gens ? Est-ce qu'on est venu vous chercher ou est-ce que vous êtes allé chercher ? Et cette question, ça veut dire, est-ce que vous avez attendu ? Ou est-ce que vous étiez tellement excité, appelé par une méthode, par un outillage, que vous êtes allé le chercher, que vous êtes allé le voler ?
Ben moi, je vais répondre sur le même mode et comme ça rapidement de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que ça dépend, que c'est le même bordel et que par conséquent, ben, j'ai une pensée pour Alain Robinet qui était venu me chercher pour faire une bande-son sur un de ses livres et puis ben, le projet m'avait excité, donc je l'avais fait. Là, je prépare un travail avec Maëlle Guédon de réflexion d'un manuel de culture contre-psychique, donc de contre-culture psychique. Et puis, il m'est arrivé de travailler avec d'autres musiciens pour faire des opéras parlés, donc... Je remarque qu'il n'y a pas, en tout cas dans mon cas, de fétichisme, de l'hétérogénéité de compétences. Quand je me mets au travail, quand on a travaillé ensemble, Jérôme, j'étais à un autre endroit que le tien, mais il m'arrive aussi d'être à égalité d'endroit. Ouais.
Et c'est vrai que pour moi, ce qui m'arrive dans les collaborations, c'est véritablement des collaborations autour de la traduction, que ce soit alors des gens qui souhaitent m'inclure dans des projets de traduction, mettons, soit collective, ou des projets qui ont à voir avec l'écriture de poésie avec la traduction, ou alors que ce soit un projet que j'ai lancé récemment qui s'appelle Traduire la performance, performer la traduction, dans le cadre duquel on essaye de traduire une pièce de théâtre déjà existante, mais non pas la traduire pour proposer un texte traduit, mais la traduire pour proposer finalement la traduction comme personnage du spectacle. Et donc des artistes, des metteurs en scène, des artistes, des écrivains, des sociologues, etc. Et on est tous là comme on déhiérarchise nos compétences, même si on en a quand même, mais on les déhiérarchise. Tout le monde est traducteur, tout le monde participe à la mise en scène, etc., etc. Bon, donc c'est ça minutes. En fait la collaboration, il me semble.
Alors moi, je ne vais pas répondre. Je travaille avec des compositeurs, compositrices. Ça serait tentaculaire de répondre, je ne réponds pas. Donc, je tire mon joker. Hein. 1 minute 30, normalement, c'est sur la spatialisation. Je monte juste en 1 minute 30. Comment, avec une compositrice, on a fait pendant 2 ans et demi. On a couvé ensemble et on a fait grumeaux ensemble. J'appelle faire grumeaux les faits divers, ce qui intervient dans la langue. Comment, en musique et en texte, on a essayé à un moment de gêner l'œuvre dans une polyphonie que vous entendrez sans doute très peu à partir de quelques phrases. Là, je crois qu'il faudrait mettre vraiment plus fort, si vous pouvez.
Qui a tué Alexia ? Selon une source sûre, le principal suspect. Comment ? Pourquoi ? Depuis la disparition
de la rédaction de l'interview.
Couper, mais disons que c'est comment faire grumeaux sur un fait divers ensemble. Voilà, je crois que c'est indissociable pour moi, ça répond un peu à la question de la collaboration.
C'est l'heure et de conclure et d'ouvrir, donc je sais pas s'il y a des questions ou des remarques qui viennent de vous.
Donc ça va être l'heure de conclure.
Donc c'est de conclure. Merci.
Merci.
Alors, juste une petite remarque. Nous retrouverons Laure Gauthier, Jérôme Gamme et David Christoffel le 18 juin à la Maison de la Poésie à 21h pour une soirée sur les nouvelles architectures poétiques.
Là, on entendra, on ne nous entendra pas nos discours. Cette fois-ci, c'est l'autre côté qu'on dissocie.
Et dans quelques minutes, juste le temps d'un petit réaménagement scénique, nous allons continuer notre parcours au Québec.